Chacun, parce que toujours tu nous donnes cette possibilité de venir à toi, de déposer nos fardeaux, de te parler, et tu nous as donné aussi cette possibilité de vivre avec des frères et sœurs, de pouvoir parler, communiquer. Je te remercie, mon Dieu, parce que cela aussi fait partie de ta grâce, de pouvoir toujours aller de l'avant, recommencer. Et je te remercie, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous donne cette puissance de vie. Je te remercie, Jésus, pour cela, et je te prie de bénir en particulier ce avec qui on va fêter leur anniversaire, que ce soit notre frère Igor, que ce soit mon épouse Catherine, ainsi que Anne, et peut-être des personnes qui écoutent sur Internet, et que nous puissions passer un bon moment avec toi. Je te prie de bénir Michel qui va nous apporter ta parole, je le crois inspiré, et je te remercie par avance pour cela, Jésus. Amen.
Frères et sœurs, ce matin, nous allons faire une longue lecture dans Romains, chapitre 6, Romains, chapitre 6. Je vais vous lire dans la version Parole vivante de notre frère Alfred Kuhn. Dirons-nous comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse. Vous vous rendez compte, il y avait déjà des tordus à cette époque-là qui disaient ça. Nous faut-il demeurer dans le péché? Certes, non. Nous sommes morts au péché. Nous n'existons plus pour lui. Comment alors vouloir vivre encore sous son empire? Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés dans sa mort? Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu la nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau, car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés dans sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Comprenons donc que notre vieux moi a été cloué à la croix avec Christ afin que notre vieille nature pécheresse fut réduite à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, fut neutralisé. Nous avons été crucifiés avec Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque notre vieille nature est morte avec Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie de Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. Car nous savons que Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Il est mort afin de briser la tyrannie du mal. Il a payé une fois pour toutes son tribut au péché. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort vis-à-vis du péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous, d'autre part, comme vivant pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Christ notre Seigneur. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme d'une arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle ? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de tous vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme d'une arme pour accomplir ses desseins. Car votre maître n'est plus le péché, il ne conserve aucun droit sur vous, il ne pourra par conséquence ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi, votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Amen. Frères et sœurs, votre moi est aussi bien le centre du vieil homme que vous étiez que du nouveau que vous êtes. C'est ce qui ressort de ce que je vous ai dit vendredi passé. Ce que je vous disais vendredi soir, c'est que le moi qui était autrefois ce que Paul appelle maintenant le vieil homme ou la vieille femme, hein, doit être considéré comme mort au péché, par vous. Moi, je dois me considérer comme mort au péché moi-même. Je ne dois pas vous considérer comme mort au péché, vous, mais moi-même. On peut dire ça autrement. On peut dire que nous sommes immunisés maintenant contre la puissance du péché. Pourquoi ? Parce que notre moi a partagé la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. C'est que c'est ce même moi qui est maintenant vivant pour Dieu. Quand la Bible dit que nous sommes une nouvelle création, ça ne veut pas dire que ce que nous étions avant a tout à fait complètement, a totalement disparu et que maintenant, c'est une nouvelle création. Je suis désolé, je suis toujours Michel Janton. Alors, pour affirmer ça, comment je peux affirmer ça ? Parce que notre moi, il a participé non seulement à la mort et à l'ensevelissement, mais aussi à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il nous vivifie. Il vivifie quoi ? Ben, notre moi. Que dit Paul ? Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Ce qu'il faut crucifier, c'est ce qu'il faut tuer, c'est tout ce qui est, tout ce qui prend, tout ce qui est livré au mal. C'est pas notre chair, on doit la livrer à Dieu pour qu'il s'en serve. Paul dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes des nouvelles créatures. Qui est devenu une nouvelle créature ? Vous, votre moi. L'homme que vous étiez, il est mort. La femme que vous étiez, elle est morte. Et vous êtes une nouvelle personne en Jésus-Christ. C'est ça le but de la rédemption. C'est ça le but. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a rachetés. C'est pour pouvoir vivre au travers de nous. Alors que nous étions habités. Nous avions le péché qui habitait en nous. Il lui a ôté son pouvoir afin de pouvoir vivre lui-même en nous. Il a fait ça pour que notre nature de plomb, dominée par la chair, devienne une nature d'or pur, c'est-à-dire celle d'un homme, celle d'une femme, dominée par l'Esprit de Jésus. Alors voilà notre délivrance. Paul écrit, « Qui me délivrera ?» Mais lui-même, il répond. Ce n'est pas qu'il n'est pas délivré, il explique. Il est déjà délivré, lui, et il explique. Et il dit, « Il m'a affranchi. » Romains chapitre 8, verset 9. Pas « Il m'affranchira ». Il m'a affranchi, c'est fait. Je suis délivré, je suis libre. Il m'a délivré. Il l'affirme haut et clair, il m'a affranchi. Romains 8, 2. C'est fait. Ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a donné à tous, c'est-à-dire la pluie, le soleil, la nourriture, l'air, la vie, toutes ces choses-là, Dieu veut que nous en jouissions, et pour que nous jouissions de tout, il nous a donné le pardon, la rédemption, l'adoption en Jésus-Christ. À qui il a donné ça? À ceux qui le reçoivent, à votre moi qui le reçoit, qui s'humilie et qui se met en soumission, reconnaissant que maintenant il a un nouveau maître. On ne peut pas être sans maître. Si vous n'êtes pas sous l'autorité de Jésus-Christ, vous êtes sous l'autorité du péché. Même pas du diable, mais du péché tout simplement. Pour le recevoir dans la nouvelle alliance, pour recevoir Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, nous n'avons qu'à l'entendre et à le croire. Pas simplement croire dans son existence, mais croire ce qu'il dit. Celui qui le croit, après avoir compris, parce que beaucoup de gens disent « je crois en Dieu », mais ils n'ont rien compris, ils croient confusément en Dieu, oui, il y a un Dieu. Mais nous ne croyons pas confusément en Dieu, nous cherchons à connaître qui il est. Et le seul moyen que nous avons, c'est la parole de Dieu. Celui qui croit en lui après l'avoir compris, à celui-là, Dieu donne la délivrance de la puissance du péché qui habite en nous. Bon, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la Bible nous dit, nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, il faut que je sois très clair. Ce que nous appelons la sanctification, dans certaines dénominations, on appelle ça la plénitude de l'esprit. C'est-à-dire, si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, ben évidemment, vous êtes mis à part. Vous n'êtes pas livré du tout à l'autre. La sanctification, la mise à part, la plénitude de l'Esprit, c'est le sujet qu'on rencontre immédiatement, aussitôt qu'on est né de nouveau. C'est un appel de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est un appel de Dieu qui nous est adressé. Soyez saints car je suis saint. Et là encore, Paul trace l'unique route que doit suivre le croyant. Ce n'est pas Jésus qui a expliqué ces choses, c'est Paul. Mais Paul était habité par Jésus. Et il avait la mission d'expliquer ces choses aux nations, de donner ces choses aux nations. Il n'y a eu qu'un Paul. Et il ne se prenait pas pour rien, l'apôtre Paul. Il savait très bien qu'il était investi d'une mission. Celle de nous ouvrir les yeux. On ne peut pas se tromper. On n'a rien à interpréter dans ce qu'il dit. Il dit l'unique chemin, c'est Jésus-Christ. Voilà, on peut dire Amen, puis rien comprendre. Mais maintenant, il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est? Il écrit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de la même manière que vous l'avez reçu, maintenant marchez en lui. » Comment on l'a reçu? Par la foi. Maintenant, marchons en lui par la foi aussi. C'est de la même manière. C'est par la foi. Étant enraciné et fondé en lui, mais de la même manière qu'on l'a reçu, maintenant il faut marcher. Colossiens 2, 6, et c'est par la foi. Alors on va voir un petit peu notre justification. Qu'est-ce que c'est? Par la foi. Je vous ai expliqué, il y a quelque temps en arrière, qu'il y a des degrés dans la foi. Vous avez la foi, au premier degré, toute simple, celle qui nous permet de saisir Jésus-Christ. Alain me disait hier, moi j'ai eu la révélation, voilà, parce qu'il a appris que Jésus-Christ était son sauveur, il a eu la révélation de la chose, ça lui a été révélé que Jésus-Christ était son sauveur. Il n'aurait pas pu savoir d'ailleurs si ce n'était pas écrit, ça, il a fallu que ça soit transmis, et ça a été transmis par l'écrit. Et ça c'est la foi de base. Maintenant il y a des degrés supérieurs pour la marche. Mais c'est de la même manière, c'est encore la foi, mais c'est un degré supérieur. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. C'est écrit dans Romains 4, 25. Là, ça devient plus difficile à comprendre, donc à croire, que le simple fait que Jésus est mort à notre place. Et je vous ai dit il n'y a pas longtemps, c'est plus facile de croire des choses qui se sont faites dans le passé ou qui vont arriver dans l'avenir que de croire dans le présent, c'est-à-dire dans le vécu. Toutes les épîtres de Paul rendent ça clair, mais c'est vrai que l'apôtre Pierre lui-même disait, des fois Paul il est compliqué. On ne peut savoir que ces choses que en lisant ce que Paul a reçu. Il disait, mais regardez la richesse de la révélation que j'ai reçue, même une écharpe m'a été mise dans la chair pour pas que je tombe dans l'orgueil, tellement que c'est immense. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité en se substituant au pécheur, c'est-à-dire pour le représenter, il l'a fait d'une manière absolument complète. Il ne faut pas penser que Jésus a seulement porté nos péchés en son corps sur la croix. C'est vrai qu'il l'a fait, mais il n'a pas fait que ça. Il ne s'est pas que chargé de nos péchés en prenant sur lui la réalité de ce que c'est, de l'horreur de ce que c'est, de la souillure, et des conséquences aussi des péchés. Il ne les a pas seulement pris sur lui pour mourir et puis ensuite être enseveli dans la tombe. Il n'a pas fait que de montrer par sa résurrection que c'était un sacrifice qui était agréé par Dieu. Il n'a pas fait que ça. Il est devenu péché. Il est devenu péché à notre place. C'est ce que nous étions. C'était notre nature. 2 Corinthiens 5, 21. Il est devenu péché. Il est devenu pécheur lui-même. Il a pris la racine du péché aussi bien que le fruit du péché. Il a pris ça. Lui, il est devenu ça. Il a pris toute l'œuvre du péché qui est dans l'homme. La présence du péché dans l'homme, son emprise sur l'homme, la corruption de son moi, Jésus a dû subir tout cela pour nous. Il a pris tout cela. Et mes frères et sœurs, le plus grand péché de l'homme, c'est l'homme lui-même. Parce que c'est sa nature. Nous sommes de nature pécheresse, on est né pécheur. Même avant d'avoir péché, on est déjà pécheur. Et quand Jésus a été crucifié, l'homme pécheur, aussi bien que les péchés des hommes ont été crucifiés en lui. Lorsqu'il a été enseveli, l'homme pécheur, aussi bien que les péchés que cet homme pécheur a pu faire, tout ça s'était mis dans la tombe. Et lorsque Christ est ressuscité, l'homme qui était en lui, ce pécheur, est ressuscité en même temps. Non plus pécheur, mais en nouveauté de vie. Alors maintenant, là je vais vous donner une série de versets, vous allez réécouter le message et vous allez pouvoir prendre des notes. Romains 6, 1, 13. Galates 2, 20. Galates 5, 16 et 25. Galates 6, 14. 2 Corinthiens 4, 10, 12. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Éphésiens 2, 4 à 7. Colossiens 2, 10 à 12. Et aussi le verset 20. Colossiens 3, 1 à 11. 1 Pierre 2, 24. Quand même Pierre un peu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est là. Et encore davantage. Tous ces textes-là vont éclairer pour vous cette vérité révélée à Paul, écrite par Paul, pour que nous en ayons la révélation. La révélation lui est venue par le Saint-Esprit, maintenant elle nous vient par l'Écriture. Évidemment, il faut que le Saint-Esprit l'éclaire. Sinon, on n'y comprend rien. Mais si déjà on ne la lit pas, on risque pas d'avoir la révélation. On va avoir des intuitions, mais pas des révélations. Notre sanctification, elle n'est pas à venir, elle trouve son origine dans le passé. Ça s'est déjà produit. Écoutez bien ça. Par exemple, pour le pardon, il dit, de la même manière que comme vous avez reçu le Seigneur, de la même manière que... Comment est-ce qu'on a reçu le pardon? Pas comme quelque chose que Dieu va nous donner dans le futur, mais comme un fait historique accompli dans le passé par Jésus-Christ à la croix, Romains 5:5. D'accord? Eh bien, de la même manière. Le pécheur apprend que ça a été fait déjà. Alors, il l'apprend, ensuite il le croit, et c'est fait. Ça devient la réalité dans son vécu. Il a la paix avec Dieu par Jésus-Christ à partir du moment où il le reçoit. À tous ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir d'avoir la vie éternelle. Eh bien, de même, le chrétien qui aspire à être délivré de cette nature, de ce péché, de ce moi qui l'entrave dans sa marche, parce qu'on peut être pardonné, mais maintenant il faut marcher, c'est-à-dire il faut progresser, il faut vivre au jour le jour, avec les uns, avec les autres, avec les problèmes, avec les trucs, les machins. Et ce péché, il nous entrave. Eh bien, il doit être non pas demandé, cette délivrance, elle ne doit pas être demandée comme une délivrance future, mais elle doit être regardée comme quelque chose qui a été fait dans le passé. Regardez la même scène, le même Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Le chrétien qui veut vraiment être délivré doit regarder à la croix. Le chrétien doit se voir lui-même avec Christ, en Christ, à la croix, dans le tombeau et dans la résurrection de Jésus-Christ. Et se mettre à vivre comme si chaque jour, ce n'était pas du lit qui sortait, mais du tombeau. À chaque jour suffit sa peine. Il doit, avec Paul, se dire, j'ai été et je suis encore crucifié, c'est-à-dire le vieil homme. Et maintenant, ce nouvel homme qui vit, ce n'est plus ce vieux qui vivait avant, c'est un nouveau qui vit maintenant pour Christ. Alors, et Christ est en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, on ne va quand même pas faire n'importe quoi avec ça. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, ce n'est plus mon vieux moi, c'est mon nouveau moi. Christ en moi. Galates 2:20. Mais il ne faut pas seulement se le dire. Il ne faut pas seulement le confesser. Il y a déjà des gens qui ne le confessent pas. Mais il ne faut pas seulement se borner à le confesser. Il ne faut pas seulement se borner à le croire. C'est bien, c'est déjà pas mal de le croire. Mais il faut faire ce que Paul dit de faire. Il dit... Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ afin que le corps du péché fût détruit. Maintenant, l'action, c'est regardez-vous comme mort au péché. Il ne dit pas autre chose. Il dit regardez-vous, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, ressuscité. Si vous avez ce regard sur vous-même, vous n'allez plus faire n'importe quoi. Vous devez vous voir vous-même comme crucifié, enseveli, mis dans la tombe avec Jésus-Christ, étant dans la tombe mort. Vous laissez ce vieux machin mort, c'est mort. Le corps du péché, c'est-à-dire le corps qui vous servait avant pour pécher, il est mort. Et Jésus-Christ est devenu ce corps du péché. Vous étiez dedans. Il est mort ce corps. Et maintenant, vous vous voyez vous-même ressuscité en Christ, dans le corps de Christ, dans le corps qui est à Christ. C'est quoi le corps qui est à Christ? Ben, c'est le vôtre, mais il est à Christ. Voilà pourquoi il dit, ne livrez pas les membres de votre corps au péché, parce que c'est vous vous unissez à lui, et vous divorcez de Jésus. Quand vous faites ça, devenu un homme nouveau en Christ, ayant Christ en lui, en sorte que ce n'est plus vous qui vivez, ce n'est plus le vieil homme qui vit, mais c'est Christ qui vit en vous. Vous voyez tout ce que Paul dit? Alors ça peut être des phrases, mais si on se regarde vraiment comme tel, mais ça nous donne une force extraordinaire, parce que ça nous donne une nouvelle mentalité, avec des nouvelles possibilités. Et c'est ici, à ce moment-là, quand on commence à dire « Oui, j'ai appris ça, j'ai compris ça, je crois ça », que la bataille peut commencer, c'est-à-dire que la marche peut commencer. C'est une bataille. C'est une bataille. De quoi est-ce qu'on se rend compte, alors, une fois qu'on a appris, compris, cru cela? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que c'est plus difficile de croire dans les moments présents que cela est fait. C'est facile de croire que c'était fait dans le passé. C'est facile de croire que dans l'avenir, on va avoir la vie éternelle. Dans le paradis, c'est merveilleux. On a assurance en Jésus parce que Jésus est tellement bon. Il est tellement gentil. Mais c'est plus difficile de croire ça au maintenant, au présent. Je vous l'ai dit. Nous découvrons que c'est facile de croire que notre passé est pardonné, que notre avenir est assuré. C'est plus difficile de croire que notre vieil homme est vraiment crucifié, qu'il est mort, qu'il est enterré, maintenant, là, maintenant, qu'il est vraiment mort, hein, et que nous sommes ressuscités, que nous sommes libres de rechercher les choses d'en haut et que nous ne sommes plus esclaves. C'est plus difficile de croire ça sur le moment présent. Cette croyance, elle commence à rentrer en conflit avec ce que nous savons être les réalités toutes simples de la vie, de notre vécu du jour le jour. Des besoins de notre corps qui n'a pas encore été racheté, il ne sera qu'à l'adoption, à la fin. Alors, j'en viens à ce que je disais vendredi soir, est-ce que la connaissance intellectuelle peut nous aider à nous en tirer? Oui et non. Oui, parce que sans elle, on ne peut pas, sans la connaissance intellectuelle, on ne peut pas avoir la foi. Mais la foi au premier degré, c'est-à-dire la connaissance de la chose n'est pas suffisante. Il faut faire, il y a plus. Il y a un degré supérieur qu'il faut absolument franchir. Parce que dès qu'on passe de la connaissance de la vérité à l'application personnelle et sincère de foi simplement de base, eh bien la tempête commence à souffler et on devient conscient qu'on ne peut pas dire honnêtement, on ne peut pas sentir ni reconnaître avec Paul que nous sommes vraiment crucifiés en Jésus-Christ et que maintenant il vit en nous. On sent très nettement que l'affirmation d'une telle foi, elle est vaine et qu'elle est une imposture. Oui, mes frères et sœurs. C'est là que j'en reviens à ce que je vous disais il n'y a pas longtemps. Il y a des degrés, il y a un degré élémentaire de foi, et puis il y a des degrés plus avancés. Là, avec Paul, on atteint le plus difficile. Le plus difficile. Parce que là, on atteint les choses qui sont alors qu'elles semblent ne pas être. C'est un peu, avec la guérison, c'est un peu la même chose. Il a porté notre maladie à la croix, mais maintenant, il l'a porté. Comment ça se fait qu'on la porte alors? Et on confesse ce qu'il a fait, et alors on commence à marcher selon ce qu'il a dit. Au nom de Jésus, lève-toi. Et là, il y a quelque chose, c'est une foi plus importante, qui a un degré supérieur que simplement la foi. Oui, je crois au Seigneur Jésus, tout ça, ça n'engage pas à grand-chose de croire. Mais là, il y a une action à produire. Et là, c'est difficile. C'est là que nous avons à nous souvenir des paroles de Jésus qui dit dans Jean 7, 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne jugez pas selon ce qui vous semble être la réalité, parce que ce n'est pas ça qui est juste. Souvenez-vous, comment Dieu s'est-il présenté à Abraham? Comme celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Souvenez-vous de Paul qui écrivait dans Romains 11, 3, « Le visible a été fait de l'invisible. » Tout le monde dit « Amen !» Si c'est comme ça que Dieu a fait, il veut que nous fassions la même chose. Que nous marchions la même chose. Parce que maintenant, nous sommes en lui. Et il ne va pas changer sa façon de faire pour nous. Et si nous ne faisons pas comme il fait lui, on va être éjecté. On attriste le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, logique, honnête, je dirais même un peu primaire. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Jésus lui dit, va, jette les filets. Mais on a fait ça toute la nuit, Seigneur. On a fait ça toute la nuit. Et puis on n'a rien pris du tout. Il était logique, il avait foi dans les apparences. On l'a déjà fait. Puis, bon, mais sur ta parole, je vais le faire. Il y a Jésus qui est là. La parole est là. Aujourd'hui, on a la parole écrite. Bon, sur ta parole, je jetterai le filet. Et voilà, il commence à avoir la foi dans l'invisible. Le visible, c'est on a fait, ça n'a pas marché. Maintenant, sur ta parole. D'accord. La foi dans ce que Jésus dit, la foi dans les ressources qu'il possédait, dont il disposait. Et puis regardez comment il fait. La Bible nous dit, il jette un filet. C'était qu'une foi limitée. Parce que Jésus avait dit, je jette les filets. Mais mes frères et sœurs, je vous parlais l'autre jour, si on ne prend pas au sérieux ce que Jésus dit, on apprend par les coups. Ben là, il a payé. Son filet s'est rompu. Les dures leçons de la vie. Mais heureusement qu'il y a ça. Ce n'est pas Dieu qui rigole dans son coin et puis qui nous envoie des problèmes. C'est pour qu'on apprenne. Et Pierre a appris. Parce qu'il était logique, parce qu'il était entier, parce qu'il a compris. Et alors, c'est ce qui fait qu'il a marché, il a progressé. Il a appris quelque chose de très important. Il y a en Dieu des ressources dont l'action s'oppose au cours naturel des choses de la vie de tout le monde. Et je peux m'en servir. Voilà ce que Pierre a appris. Il ne s'est pas dit, ah, Jésus a fait un miracle, génial, super, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il en a tiré une leçon. Et nous, est-ce qu'on tire une leçon de ça ou est-ce qu'on dit, ah, quand même, ça aurait été génial, si on avait été là, on aurait pris des photos. Bien sûr, j'aurais pris des photos. Mais il faut apprendre. Quelque temps après cela, Pierre, lui, là, il a monté un degré dans sa foi. Il n'attend pas d'être invité, mais il voit Jésus qui est en train de vivre un miracle, il marche sur l'eau, il dit, Seigneur, ordonne que je vienne à ta rencontre sur l'eau. Hein? Matthieu 14, 20. Il a passé un degré. Il n'attend pas d'être appelé pour le faire, c'est lui qui est demandeur, là. Marcher sur l'eau, ça a rendu service à personne. C'était pas un acte de bienfaisance, c'était juste, excusez-moi, un tour de force, hein, mais voilà, il l'a fait. Et là, pour la première fois, cet homme a découvert comment ça fonctionne le système, les trucs de l'esprit, la façon de l'esprit. Jésus dit, ok, viens, viens. Et Pierre, il descend de la barque, il commence à marcher sur l'eau. Et il s'aperçoit que les lois de la pesanteur qu'il a toujours connues, elles sont vaincues. Elles sont vaincues par sa foi. La force naturelle a été vaincue par un pouvoir supérieur. Comment ? Eh bien, par la foi en Dieu. Par la foi dans ce que Jésus avait dit. Ben, ok, viens. Mais a demandé quand même. Il n'a pas été comme ça. Toute sa vie, il avait vu tout le monde et lui-même s'enfoncer dans l'eau. Heureusement, hein, vous rendez compte, sinon plus, quand on veut se mettre dans la baignoire, il faut faire un trou. Et là, en Christ, il voyait à l'œuvre une puissance plus grande qui le rendait capable de marcher sur l'eau, c'est-à-dire de défier les lois de la nature. Bon, ce pouvoir soutient le maître, il le voit, il l'apprend. Il se dit, je suis disciple, alors il doit pouvoir, ce pouvoir-là, me soutenir aussi. Sa foi évolue. Et hop, comme il est un débutant, ben, il n'a pas tenu longtemps. C'est-à-dire que la première grosse vague qui arrive, eh bien, ça le fait retourner à son ancienne façon de vivre les choses de la vie et à ce qui est un état familier, c'est-à-dire que quand tu marches sur l'eau, tu t'enfonces, donc il s'enfonce dans l'eau, et voilà, il s'enfonce. Et parce que pourquoi ? Ben, il lui arrive selon sa foi. Eh oui. Mais quand même pas tout à fait, parce que au moment où il s'enfonce, la main de Jésus se tend et le fait remonter. Voyez, parce qu'il a fait quelque chose d'impossible, parce que sa foi l'a saisi et il a demandé. Alors Jésus l'aide. Et une chose extraordinaire lui est arrivée, il a marché deux fois sur l'eau, Pierre, parce qu'il est retourné à pied dans la barque. Amen. Mes frères et sœurs, ça signifie que presque à notre gré, je dirais, nous pouvons tendre la main de la foi et saisir le pouvoir qui est caché en Dieu. Qu'on ne voit pas, on voit tout ce qui est bien réel, bien voilà, c'est comme, Michel, tu ne comprends pas, c'est comme ça, on ne peut pas faire. Bon, d'accord. Il a saisi cette vérité, comment ? En essayant, mes frères et sœurs. C'est ce que je disais vendredi soir. Si on n'a pas la connaissance de ces choses par l'Écriture, eh bien, on apprend en se faisant des bosses, en coulant, en tombant, en se relevant. Mais on finit toujours par apprendre parce que Dieu nous aime. C'est quand même plus C'est quand même plus sage d'aller écouter Jésus, de s'asseoir au pied du maître et puis d'aller écouter. On s'est dit en lisant. Pierre, il savait par l'expérience, en présence de la parole faite chair, et nous pouvons faire les expériences par la présence de la parole faite écrite aujourd'hui. Et puis on va arriver au même résultat. Pierre savait qu'il avait quelque chose à partir de là. Il savait qu'il avait quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Rappelez de ça. Ah, il est monté, hein. Il a fait des progrès. Vous voyez, quand je vous dis, il y a la foi de base, et puis ensuite, par l'apprentissage sur ta parole, alors on monte. Pierre possédait toute la puissance du ciel et de la terre que le nom de Jésus peut libérer. À la pêche, Pierre a été invité à s'en servir. Jette le filet. Dans la barque, Pierre a demandé de pouvoir s'en servir. Mais à la belle porte, là, avec le paralytique, il n'a rien demandé à personne. Il savait qu'il avait cette puissance qui était en lui et il s'en est servi sans y être invité et sans demander la permission. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ça, c'est le niveau supérieur. Qu'est-ce que ça a à voir avec la justification ? J'y viens. Un peu plus tard, on retrouve Pierre. Il est en train de donner des explications au sujet de ce miracle. Il est devant les gens qui le regardent, la bouche bée. Et il dit, et qu'est-ce qu'il fait ? Il met Jésus en avant. Il dit, Jésus est au centre. C'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est lui. Hein ? Il ne dit pas que c'est seulement le nom de Jésus qui a agi. Il dit, c'est par la foi dans son nom que ce nom a raffermi celui que vous voyez. Si je n'avais pas eu la foi dans son nom, il n'y aurait rien eu. Mais il a fallu la manifester cette foi dans son nom. C'est la foi en lui qui a redonné à cet homme une totale guérison. Acte 3,16. Pas seulement le nom. Parce que vous pouvez dire le nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Puis il ne se passe rien. La foi, mais la foi dans quoi ? Dans le nom, ça veut dire quoi ? La foi dans le nom. C'est dans tout ce que ça représente. L'utilisation de ce nom. C'est là le secret que Pierre a saisi. Alors, avez-vous la foi dans le visible, dans ce qui est la réalité, ou est-ce que vous l'avez dans l'invisible qui peut surgir par votre prise d'autorité en ayant complètement foi dans le nom de Jésus, qui est une personne, un corps dans lequel vous vivez et par lequel vous pouvez vous manifester sans avoir besoin d'y être invité, sans avoir besoin de demander la permission? Mais vous pouvez le faire en son nom. Quelle sorte de foi ? Oh, je ne suis qu'un pauvre bougre. Non ? Tu n'es pas qu'un pauvre bougre, non ? Tu n'es pas qu'un pauvre chrétien qui a des hauts et des bas ? Non ? Tu es vivant pour Dieu, ou pas ? Il t'a sauvé, il t'a sanctifié, il t'a changé. Maintenant, prouve-le. Comment ? Par des actions. Par des actions. Pas des actions forcément d'aller marcher sur l'eau ou de faire lever les paralytiques, mais contre l'action number one. Quand les sollicitations du péché arrivent, non. Non. Je ne suis plus l'esclave que j'ai été. Non. Ça, c'est l'acte de foi qui glorifie le plus le Seigneur. Voilà pourquoi c'est le plus difficile. C'est beaucoup plus facile de guérir un malade. Vous assure. Contre le péché, ensuite contre la maladie, contre toutes sortes de faiblesses, contre la pénurie, contre l'ignorance, contre tout ce qui est négatif, contre tout ce qui est mal, etc., etc. Mais vous pouvez le prouver par vos actes. La foi sans les actions, c'est mort. Il y a la foi morte, il y a la foi vivante, il y a la foi qui progresse. Il est temps de progresser afin que Jésus trouve une église, une épouse qui soit à sa gloire et en qui il peut mettre vraiment toute sa joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à saisir ça, parce que c'est Paul. Lisez ce que Jésus dit, il n'en parle jamais. C'est pourquoi beaucoup de théologiens disent Paul a inventé le christianisme. Non, il n'a pas inventé le christianisme. Il y a eu avant la croix, et il y a eu Jésus, et il y a eu après Jésus. Et quand Jésus est arrivé, c'était la transition entre la loi du péché et de la mort. Il fallait qu'il passe par la croix. Il y a eu un avant la croix et il y a eu un après la croix. Maintenant, c'est après la croix. Nous n'avons plus besoin de prendre des coups et des bosses pour pouvoir vivre à la gloire de Dieu en faisant des progrès. Non. Bien sûr, le mal atteint souvent le juste. Bien sûr, on va prendre des coups et des bosses, mais ça n'est pas lié. Et si c'est lié à votre manque de connaissances, alors là, c'est grave. Si Dieu est obligé de vous envoyer des problèmes pour vous apprendre quelque chose, c'est grave. Vous êtes en mauvaise position, il faut vous repentir. Mais le mal atteint souvent le juste. Voilà, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pourquoi je vous disais l'autre jour, il est nécessaire, et c'est que par Paul qu'on apprend que c'est la chair, que c'est le péché, où est le point où il se localise, comment on en est vainqueur, comment on peut marcher ensuite de victoire en victoire, comment on peut marcher de progrès en progrès. Parce que marcher de progrès en progrès, ça ne veut pas dire avant je disais des gros mots, puis maintenant j'en dis beaucoup moins. C'est pas ça, marcher de progrès en progrès. Ça, c'est le fruit du progrès. Mais le progrès, il est intérieur. Le progrès, il est une foi qui est beaucoup plus reposée sur ce que Jésus dit. Et mes frères et sœurs, quand Paul parle, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Quand vous lisez ce que Paul dit, c'est Jésus qui parle. C'est pas. Il faut arrêter avec ces. Il y a beaucoup de gens maintenant qui remettent, beaucoup de théologiens, même évangéliques, qui critiquent Paul. Arrêtez. N'entrez pas dans ce truc-là. Maintenant, il y a aussi la mode de plus en plus des chrétiens évangéliques même qui critiquent Israël. Arrêtez ça. Il ne faut pas rentrer là-dedans. On touche à du sacré. On touche à des choses qui sont. Il ne faut pas toucher ça. Il faut bénir. La parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde après Israël. Amen. Et pourtant, mon Dieu, c'est difficile à comprendre la parole de Dieu, presque autant que l'Israël. Mais, par la foi, par une foi qui accepte le fait qu'elle doit grandir, nous pouvons y parvenir, afin de glorifier notre Dieu chaque jour. Amen. Jésus, merci de nous instruire, merci de nous aider à grandir et d'aller de notre marche de mieux en mieux pour te plaire et pour faire les choses que tu attends de nous. Merci Jésus, parce qu'avant de les faire, nous voulons d'abord être. Je te prie, mon Dieu, de tout mon cœur, pour que je puisse être et que de cet être découlent les choses qui doivent être faites. Merci Jésus. Amen.